Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Bibliopotine, l'émission radio des médiathèques de Breteuil-sur-Iton et de Verneuil-d'Avre-sur-Iton. Désolé, on est un peu en retard, Bill Gates, on te regarde dans les yeux, hein, vraiment tu nous saoules avec tes mises à jour. Aujourd'hui, je suis rejoint comme d'habitude par JC et Jean et par deux invités, Christelle et Audrey. Bonjour tout le monde.
Bonjour Guillaume.
Oui, merci, c'était synchronisé, ça s'améliore dans cette émission.
Nous avons répété durant toute l'heure du déjeuner là.
Oui, oui, bien sûr.
S'est accordé, on s'est mis dans les tonalités et tout, et ensemble. C'est répété.
Oui. Est-ce vrai ou pas? Vous ne le saurez jamais.
Au sommaire de cette émission, Guillaume.
Au sommaire, on va un petit peu alterner entre les différents participants. On va alterner parce qu'on va parler de nos parcours, qu'est-ce qui nous a amené à travailler en médiathèque. On va vous présenter quelques coups de cœur, comme d'habitude. Et on terminera, comme à notre habitude, sur les annonces des événements à venir dans les deux médiathèques. Je vais donc commencer par passer la parole à Jean.
Oui, c'est à moi. Alors, je vais assouvir un fantasme, ni plus ni moins, grâce au coup de cœur d'aujourd'hui. Donc, vous allez deviner de quoi il s'agit. Alors, j'y vais.
Alors. Eh oui, tout le monde a les mêmes problèmes de mise à jour. Hein. C'est ça. C'était le thème du jour.
Ça y est. Alors, 3, 7, 50, 9, 5, 3, 903. Alors, 7 fois 9 et 5, 14. 14 et 3, 17. 17 fois 50, 850. 7 fois 3, 21. 850 plus 21, 871. Non, je suis loin du compte. Alors, je vous avais trouvé de quoi je suis en train de parler.
Moi, non, je comprends rien.
Ah, moi, je suis pas matheuse du tout.
Ah oui, donc, 7 fois 3, 21. Moins 3, 18. 18 fois 50, 900. 9 moins 5, 4, 904. Bah non, je ne l'ai pas. Voilà. C'était le compte est bon, un tirage du compte est bon en direct.
Ah, il est très bon là, le compte, hein, ça commence voilà. Bien cette émission.
Et pourquoi je vous parle du compte est bon? Parce que on propose le logiciel dans notre médiathèque qui s'appelle Calao. C'est créé par un passionné qui s'appelle Jacques Collard. Et grâce à ce logiciel, vous pouvez vous entraîner au compte est bon, au mot le plus long. Et moi, je m'amuse beaucoup. Je suis passé dans cette émission il y a 13 ans. Voilà, en 2011. Bon, bref. Donc voilà, c'est ma petite Madeleine à moi. Et si vous voulez défier un médiathécaire au chiffré et aux lettres, hein, bon, il n'y a plus l'émission de télé, mais il y a des dinosaures comme moi qui continuent à jouer. Donc n'hésitez pas à me provoquer en duel et je répondrai.
24 à 10.
C'était le compte est bon. C'était Lafont qui était sur ce jeu-là, non? C'est les chiffres et les lettres.
Oui, Lafont, c'est le présentateur historique. Et ensuite, ça a été Laurent Romeschko. Donc moi, je suis passé à l'émission avec Laurent Romeschko, Ariel Boulimprat et Bertrand Renard.
Voilà. Ça permet de revivre tous ces grands moments historiques quasi à la maison, quoi.
Ah oui, oui, parce que moi j'ai connu Patrice Lafont enfant et je jouais. Enfin, il y avait trois chaînes à l'époque et moi j'étais devant mon poste. Il y avait la grande finale le samedi soir à 21h et tout ça et je défiais les joueurs depuis chez moi et puis évidemment je perdais mais voilà, c'était un grand c'est chouette. Il y a plein de gens qui ont appris à lire avec ça. Quoi.
Ce qui était toujours étonnant avec ces émissions, c'est qu'en fait, il y avait des super balèzes qui étaient invités à chaque fois. C'est-à-dire que quand sur les lettres, on avait 4 lettres, il y avait toujours un gars qui sortait 8 lettres. Oui, c'est oui. Toujours, hein. Et pourtant, on avait retourné le truc dans tous les sens, et il y en avait toujours un qui était meilleur que nous.
Ah oui, oui, oui.
Toujours.
Oui, oui, oui. La table de 19, la table de 13 pour les comptes est bon aussi, bien sûr, 13 fois 18 et on avait le compte. Ah bah non, j'y aurais jamais pensé tout seul, non.
C'est ça, les mecs maîtrisaient des tables de multiplication que personne d'autre ne maîtrisait,
voilà,
quoi.
Voilà, oui, 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 oui.
Sentaient qu'ils allaient très loin, ouais. Quand on commence à maîtriser la table de 13. C'est qu'on a du niveau quand même.
Et voilà. Puis on a fait deux trois après-midi des chiffres et des lettres à la médiathèque. Et donc bon, c'est une façon de dire aussi qu'on va s'y remettre. Voilà.
Tu parlais du logiciel. Comment ça fonctionne? Comment il est disponible? Quelles sont les modalités
alors,
en fait?
Oui. Alors Kalao, donc c'est vraiment un logiciel édité par un passionné, Jacques Collard. Et donc vous pouvez lui écrire et vous pouvez donc recevoir le fichier ou carrément le CD-ROM. Donc nous, pour la médiathèque, il nous en a coûté 30 €. Et puis voilà, donc après, bon, c'est des heures et des heures de jeu. Et donc, il y a des tirages, il y a une formule tournoi aussi. On peut organiser son tournoi avec ce truc. C'est bien.
Voilà, de quoi passer de bonnes soirées, jeux de société avec les copains ou en famille.
Ouais, voilà.
Le point de départ de cette émission, c'est un coup de cœur et un parcours. Nous l'avions évoqué autour de la table, nous sommes cinq hein, concrètement autour de la table. On avait dit un coup de cœur et un parcours. Jean, tu ne dérogeras pas à la règle.
Oui, mon parcours, oui.
Voilà, le parcours. Chacun d'entre vous est en médiathèque, médiathèque de Verneuil-sur-Avre, dit-on pour toi, Jean. Et on a décidé d'aller faire un petit tour du côté des parcours, parce qu'en fait, vos médiathécaires, ceux qui sont proches de chez vous, n'ont pas tous le même parcours, ils sortent pas tous de l'école de la médiathèque internationale. ils ont chacun des parcours, ce qui donne des sensibilités et des regards différents et complémentaires. Mmh. Du coup, Jean, t'as commencé par le coup de cœur. Nous allons donc t'interroger sur le parcours. Et moi, j'ai envie de commencer le parcours bien avant peut-être là où vous le situiez. Moi, c'est la rencontre avec le livre. À quel moment la rencontre avec le livre s'opère pour toi et qu'est-ce que ça génère? Alors ça peut être anodin, hein, on n'est pas obligé d'être sur des trucs légendaires à chaque question, mais en tout cas, comment se passe la rencontre avec le livre? Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui crée une émotion, un moment, quelque chose? Comment ça s'est passé pour toi?
Alors ça, c'est une bonne question. Moi, en fait... J'ai mes premiers souvenirs de lecture, c'est les livres audio, les disques 45 tours de contes d'Andersen, de Perrault et Ali Baba, Les Mille et Une Nuits. C'est pour moi la lecture, c'est d'abord une voix. La voix enregistrée et puis l'accompagnement musical. J'ai un très grand souvenir de Alice au pays des merveilles avec le texte accompagné d'une musique de Schubert, des choses comme ça. J'ai un très grand souvenir de La Petite Sirène d'Andersen avec une très belle musique. Les Cygnes Sauvages, avec une chanson de Michel Fugain, etc. Et donc j'étais petit, j'avais 3, 4 ans, 5 ans, j'écoutais ces livres disques. J'avais le livre entre les mains et j'écoutais l'histoire. Et ça, pour moi, la lecture, c'est d'abord une voix. Une voix, des inflexions, des intonations. C'est des très grands souvenirs que j'ai encore en moi. Voilà.
On parle de l'enfance là, parle peut-être même des lectures avant de savoir lire. Ouais. C'est ça sur les livres audio, on est entre 3 et 6 ans quoi, c'est ça l'idée dans les souvenirs avec le livre,
Ouais. Et c'est important en fait, la lecture elle vient d'autant plus facilement que avant d'apprendre à lire, on baigne dans un univers dans lequel on aime se plonger. Et pour moi, clairement, ces livres audio, ça a été ma porte d'entrée. Et j'ai appris à lire très rapidement. En fait, en CP, j'étais très vite lecteur. Enfin, j'avais très très envie de continuer à lire par moi-même. Et ça a été un enchantement.
justement passé un certain âge, et le CP en particulier, d'un seul coup on devient autonome sur le déchiffrage de ces graphismes qui veulent dire des mots. On rentre de manière autonome dans les histoires. Quel est le premier souvenir de livre lu, là pour le coup, quand on sort de l'audio et de la petite enfance? Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Alors c'est pas forcément dès le CP, hein, ça peut être beaucoup plus tardivement qu'il y ait une rencontre particulière. Ouais. Est-ce que tu as souvenir de ces moments?
Oui,
de ce
oui,
moment.
Oui. En fait, on m'avait offert un roman qui s'appelait Fantômette en plein mystère, et je sais que au début j'étais un peu réticent à l'ouvrir parce que c'était un vrai roman pour les enfants. Moi, j'avais quand même lu Oui Oui. Enfin, j'étais fan de Oui Oui, et un fan absolu de Oui Oui. Mais Fantômette, c'était le niveau un peu au-dessus.
Bah oui, il y avait moins d'illustrations quand même.
Ouais, voilà, c'était écrit plus petit, c'était plus gros, c'est un livre plus gros, et puis c'est un vrai roman, quoi. Et puis en fait, un jour j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit allez, j'essaye quand même, hein, et en n'attendant rien de spécial, en me disant ça va me tomber des mains. Et alors pas du tout, en fait au bout de trois pages j'étais embarqué dans l'univers de Georges Cholet, et Fantômette, c'est mon premier grand souvenir de lecteur autonome. Ouais.
Alors on arrive justement à ce qui amène en médiathèque, parce qu'entre cette enfance sur ses premières découvertes de lecture, sur ses premiers amours d'histoire, on était sur le point de départ. Avant d'arriver à être médiathécaire, il y a tout un parcours. Alors on va pas aller dans le détail du parcours scolaire, hein, qui peut être fastidieux, on le disait, chacun a des parcours un peu différents, mais il y a un moment où on se dit, au bout d'un moment je vais bosser avec des livres, ou comment ça se passe?
Alors moi, pour tout te dire, à la fin du collège, je me voyais bien prof de gym. Et puis finalement, je n'ai pas été prof de gym. Et non, j'ai profité j'étais 10 ans plus tard, j'avais 25 ans, et puis bah je ratais mon CAPES d'anglais, et puis j'ai profité du plan emploi jeune lancé en 97 avec l'arrivée des aides éducateurs dans les écoles primaires, les collèges, etc. Donc j'en ai profité, je suis devenu emploi jeune, j'ai été dans une école primaire dans le quartier de la Goutte d'Or, c'était assez difficile, c'était un quartier, c'était pas facile là-bas, mais disons que grâce à ce plan emploi jeune, on m'a proposé une formation en DUT, et j'ai eu le choix entre métier du livre, informatique et puis animation.
Et là, tu t'es rappelé de Fantômette.
Ah, c'est un peu ça, hein. Non, mais je me suis dit, Jean, tu t'écoutes, tu ne prends pas le choix qui paraît raisonnable, tu t'écoutes, tu prends ce que tu veux. Et donc, j'ai pris métier du livre et je ne l'ai pas regretté. Voilà.
Quand on est en médiathèque, il y a un point qui est important, au-delà d'aimer les livres, au-delà d'aimer les histoires et lire, il y a la transmission. Le passage, le donner le goût, ce lien avec le lecteur, finalement. Comment ça s'est développé chez toi, cet aspect du boulot de médiathécaire?
Alors, moi, dans ma carrière, donc j'ai été... D'abord, j'ai commencé en section adulte. Donc, parce qu'il faut savoir que dans les médiathèques, on peut travailler au contact d'adultes, on peut aussi travailler au contact de la jeunesse. Et donc moi, dans un premier temps, j'ai travaillé en section adulte. J'étais responsable du fonds Histoire dans une médiathèque. Et donc c'est assez technique en fait. On fait assez peu d'animation en adulte par rapport aux animations en section jeunesse. Mais disons que pour ce qui est de la transmission, de l'échange, clairement moi, ce qui m'a aidé, c'est les animations. Et en section adulte, moi, j'avais une marotte, c'était les ateliers d'écriture. Et j'ai pu, grâce à mon métier de bibliothécaire, me lancer dans des ateliers d'écriture. Et j'ai eu un public assez fidèle, et c'était des très chouettes souvenirs. Donc là, ouais, on est dans la transmission du désir d'écrire. Enfin, on fait épanouir. En fait, en bibliothèque, on accompagne davantage qu'on ne transmet. On est vu comme prescripteur, mais nous, on essaye d'être accompagnateur en fait. On est à l'écoute des besoins du public, mais après la transmission, ce qu'on veut, c'est transmettre surtout, c'est la curiosité. Ouais, l'idée que aucun livre, aucun domaine ne vous est inaccessible en fait. C'est ça qu'on a envie de promouvoir, voilà.
Il y a une notion de médiation autour du livre, hein, dans ce que tu dis. Clairement, on sent un boulot plus que de, ce qu'on pourrait dire, bibliothécaire, qui est un peu flou finalement dans la définition. Médiateur de livre, en fait. Médiateur du livre, on pourrait dire. C'est un peu cette notion-là. Je l'ai déjà entendu dans des fonctions. Alors, je sais que c'est très codifié, notamment dans la fonction publique. On est médiateur parce qu'on est dans telle grille, dans tel machin. Mais au-delà de ça, dans la définition des mots, je trouve que médiateur, finalement, l'interface entre le lecteur et le livre, je trouve que ça correspond bien à ce que tu nous décris.
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est. Je suis tout à fait d'accord. Et puis on est médiateur aussi entre les usagers et les espaces aussi. C'est-à-dire que nous, dans notre médiathèque, on a des animations qui nous sont proposées par des personnes extérieures à la médiathèque. On a un café philo qui est proposé par une bénévole. On a un atelier d'écriture qui est proposé par une bénévole. Et ça, c'est des choses, voilà, on peut aussi donner les moyens à des usagers de donner vie à la médiathèque. Et ça, c'est vraiment intéressant.
On avait dit aujourd'hui qu'on venait avec un invité chacun, c'était ça l'idée, hein. Jean, t'es venu avec une invitée, toi, aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous la présenter? Et puis, nous échangerons avec elle également.
Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je suis venu avec Audrey. Audrey, dont c'est le premier jour, donc c'est un baptême intéressant pour elle aujourd'hui. Audrey, donc, va être avec nous pendant 4 semaines. Elle a été professeure des écoles, et là, elle veut changer de métier. C'est marrant parce que moi-même j'ai été dans les écoles et je suis devenu médiathécaire, donc je me reconnais un peu dans son parcours, mais bon, elle n'est pas obligée de me suivre, hein, évidemment. Et puis elle va continuer à se présenter.
Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors, comme le disait Jean, tu arrives tout juste sur la médiathèque de Verneuil, sur Avréditon. Avant qu'on te découvre un petit peu plus, qu'est-ce qui fait que dans une réorientation professionnelle, tu te dis la médiathèque est une option, une possibilité? Quelle est la démarche qui arrive à te dire au bout d'un moment, allons voir en médiathèque ce qui s'y passe?
Alors, donc dans un premier temps, j'ai toujours aimé être au service des personnes, des gens. Et donc, c'est pour ça aussi que je voulais devenir professeur des écoles dans un premier temps. Mais donc, suite à ma reconversion, je me suis posé des questions. Je me suis demandé comment je pouvais encore être au service des gens. Et il s'est avéré que depuis quelques temps aussi, depuis quelques années, c'est tout frais, je commence aussi à avoir une passion, on va dire, pour la lecture. Et donc, en recherchant un petit peu le type de métier que je pouvais faire, j'ai découvert ce métier-là, le métier de bibliothécaire et les médiathèques. Et donc, du coup, j'en suis venue à la conclusion que je pouvais allier ces deux choses-là, le fait de d'aimer lire et d'être au service des gens, tout simplement.
Dans ce que tu dis, il y a une notion hyper importante, cette notion de service public. Tu l'évoquais à travers l'enseignement ou à travers le réseau des médiathèques. Cette notion de service public, on évoquait il y a quelques instants avec Jean cette notion de médiation, c'est-à-dire d'être l'interface entre un outil ou un objectif et puis les moyens de réalisation. C'est comme ça, enfin, c'est cette notion de médiation aussi qui t'interpelle?
Oui, ça m'intéresse beaucoup. J'aime me rendre utile, en fait. Donc, du coup, c'est cet aspect-là dans ce métier-là m'intéresse particulièrement. J'ai envie d'aider les usagers à accéder à des moyens de lecture, leur donner accès à de la culture plus facilement. Et donc oui, cet aspect de médiation, c'est ça qui m'attire le plus dans ce métier.
Tu parlais d'une passion pour la lecture. Alors forcément, je peux pas laisser passer ça comme ça. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Tu parles de passion plus récente. C'est-à-dire que toi, la rencontre avec la littérature, avec le livre, elle s'est passée comment?
Alors,
peut-être même à travers un titre. Hein, il y a des fois des trucs. Jean tout à l'heure parlait d'un fantomètre, par exemple, qui est une rencontre particulière. Les contes enregistrés également. Comment ça s'est passé pour toi?
Alors, contrairement à Jean, moi, ça n'est pas arrivé durant mon enfance. Durant mon enfance, je ne lisais pas beaucoup, voire pas du tout. J'étais pas du tout attirée par ce monde-là, et c'est venu progressivement durant mes études, en fait. Où j'ai été obligée de lire des livres. Alors, à l'école, collège, lycée, je pense comme beaucoup de personnes...
Ouais, t'as lu tout Molière, quoi.
Voilà, c'était pas très intéressant. Ça donnait pas envie de lire. Et à partir de mes années de licence, en fait, j'ai découvert d'autres aspects du livre, justement dans mes études pour être professeur des écoles. En fait, on nous apprend tout simplement à donner goût aux enfants de lire, en fait, enfin, on leur donne envie de lire. Et moi, j'essaie d'en. Bah, je me reconnaissais un petit peu, puisque je me disais, bah, moi, j'ai pas envie de lire, alors comment je peux leur donner envie de lire? Et donc, j'ai découvert plusieurs livres qui m'ont interpellée et qui m'ont, en fait, tout simplement donné des émotions. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai découvert des livres comme ça, je pensais pas que les livres pouvaient donner autant d'émotions. Et donc, du coup, j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout, et j'ai continué à lire, en fait, et je suis à la recherche, dans mes lectures, de ce genre d'émotions que j'ai pu avoir au début, en fait.
C'est hyper important, cette notion d'émotion à la lecture, parce que c'est ce qui fait toute la saveur aussi de la lecture, c'est de pouvoir être traversé par des émotions. Est-ce que, toi, il y a un livre en particulier qui t'a marqué, scotché, celui que t'as eu envie de partager avec tout ton entourage? Est-ce qu'il y a un livre en particulier ou un auteur qui t'a marqué?
Alors,
le coup de cœur, c'est ça? Non, alors on y arrive après.
Non,
on arrive
le coup de cœur après.
Juste après le coup de cœur.
Non, oui,
c'est
alors,
le coup de cœur, c'est ça le livre qui t'a marqué?
Non.
Bon, on viendra après sur le coup de cœur.
Récemment, oui, mais...
D'accord, mais...
alors non, le premier livre où j'étais scotché de la fin, en fait, c'était le livre de Romain Gary, La vie devant soi, que j'ai lu il y a 2 ou 3 ans seulement. Et vraiment, à la lecture de ce livre, en fait, on s'attend pas du tout à la fin. On découvre juste une petite histoire... tranquille entre une femme qui garde des enfants, et on a l'impression que tout va bien dans ce livre. Et la fin, j'ai trouvé que la fin était assez déchirante, et je pensais pas que un livre comme ça, juste quelques pages, quelques mots, pouvait donner autant d'émotions d'un coup. Et ce livre, il m'a vraiment bouleversée, j'en étais scotchée, et depuis, après ce livre, j'ai cherché à avoir cette émotion là qui nous transperce, quoi.
C'est ça, le toxico qui recherche le premier flash.
Oui,
il y a un côté
exactement
comme ça dans la lecture. Audrey, on l'évoquait il y a quelques instants, tu es venue également avec un coup de cœur. Peux-tu nous présenter ce coup de cœur et à quel moment tu l'as rencontré, justement?
Alors, ce coup de cœur, c'est un livre que j'ai lu récemment, il y a peut-être 1 ou 2 semaines seulement. C'est un livre qui s'appelle « Les demeurés » de Jeanne Benhamer. Qui est chez Gallimard, et c'est un livre très court, de moins de 100 pages, et le titre m'interpellait déjà, Les Demeurés, et donc du coup je me suis lancée dans cette lecture sans rien attendre de particulier, et j'ai découvert un merveilleux livre qui fait vraiment réfléchir sur beaucoup de choses, sur l'éducation, notamment sur l'école, et ça laisse réfléchir, parce que c'est un livre, en fait, qui raconte tout simplement l'histoire d'une petite fille qui va aller à l'école pour la première fois. Et cette petite fille, en fait, elle ne veut pas aller à l'école, elle ne veut pas apprendre. Et sa maîtresse d'école aura qu'une envie, c'est de lui donner le goût d'aller à l'école, d'apprendre des choses, puisque aussi c'est le système qui nous dit qu'il faut aller à l'école, qu'il faut apprendre, et donc du coup il faut mêler les deux, il faut comme c'est une obligation, il faut le faire, et aussi c'est important, donc il faut le faire. Et ce livre raconte cette histoire, et la fin, comme la fin de La vie devant soi, est un peu bouleversante, et donc il m'a laissé sans voix, ce livre, et pendant quelques jours après encore, je réfléchissais à ce livre et à l'importance qu'il avait, à toutes les conséquences qu'il avait, voilà quoi. Enfin, je me suis beaucoup posé de questions sur le monde de l'éducation, l'école, après ça.
On reprend l'auteur et le titre, du coup, de ton coup de cœur.
Alors, Les Demeurés de Jeanne Benhamer.
Est-ce qu'il est disponible en médiathèque quelque part? Vous savez pas?
On va regarder.
On va regarder, c'est ça.
Côté, je sais qu'il n'y est pas. Il est édité en poche actuellement. Les autres éditions ne sont plus éditées. Ça se trouve très facilement. C'est à moins de 10 euros.
Oui. Wow. Et Jeanne Benhamer est un auteur assez présent en général en bibliothèque. Voilà.
Très bien. Vous avez vu l'interro surprise que je fais là.
Moi, j'ai une envie, c'est lire le livre. Là, je vais m'y jeter dessus.
On le commandera peut-être.
Très bien, bah merci beaucoup Audrey. Ah,
merci.
Je propose la pause musicale, Guillaume, et nous arriverons après.
Avant le main event, tu nous fais la pause musicale, c'est ça?
Bah, on fait ça maintenant, c'est une petite pause musicale. On arrive à la mi-temps de l'émission. Oui. Petite pause musicale et nous revenons juste après avec toi, Guillaume.
Oui, et on va s'écouter, attention les ceux qui n'aiment pas le hip-hop, hein, boucher les oreilles vu qu'on se passe écouter Work de Gangstar.
Eh ben non, découvrez, si vous n'aimez pas, découvrez.
Hey yo, I'm gonna be a Jedi. That's all my eyes can see. Victory is mine, yeah, surprisingly. I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Now I'ma start collecting props, connecting plots, networking like a conference. Cause the nonsense is yet to stop. Jake, shake me down, haters wanna take me down. Break me down, clap, all they heard was a sound. Yo, I scoped it out, I took your weak dream and choked it out. Your bitch don't really got no ass, she just poked it out on the D-Lo. I'm saying you versus me, yo. We can do this shit right here in front of your people. See, time is money, kid, and BS walks. And to me, it's funny, kid, when you meet heads talk. I see feds talk, they wanna dig up the dirt. Son, is it me they hawk? Cause I be putting it work, son. Gonna be on tit up, that's all my eyes can see. Victory is mine, yeah, surprisingly. I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. The cornballs get stonewalled, blackballed, I own y'all. The veteran, running my plan, I'm the better man. Crazy raw, doing my job like the mob. Blazing y'all and disappearing in the fog or a mist. And chicks can't resist what I kick. They be begging for attention on some more of the deals, Nick. Word up, baby, someone may have to get hurt up, baby. Shit is mad shady, but I got to get the gravy. Platinum respect like the force of a tech. Keep you hitting the deck, feeling heat in your chest. Banging your thoughts with the hot onslaught. A kid got shot on the spot for going where he should not. Viciously, I make history instantly. Those other lame ass loser ass niggas, they can't fuck with me. I'm doing my thing now to lamp later on. Paid the shit with some fly gators on. But now I'm grimy as they get, mud on my pants and shirt. I bet you niggas out here know I be putting in work. I'm gonna be on tit up, that's all my eyes can see. Victory is mine, yeah, surprisingly. I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate.
For the qualified bro, in this business a rep. For the qualified bro, in this business a rep. For the qualified bro, in this business a rep.
Are you working? I'm working.
Boy, what is it you want to do when you grow up?
Gangstar, avec le titre Work, c'était un choix de Guillaume.
Qu'est-ce que ce journal foutit qu'il ne nous dit pas?
Ce qu'il me dit, c'est que les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler.
Voilà, cette petite virgule, je ne pouvais résister à la rediffuser. On a bossé pour avoir de belles virgules. Nous les utilisons. Oh là là, j'aurais dû lire plus moi aussi. Hein. nous poursuivons nos échanges. Nous étions avec Audrey il y a quelques instants qui attaque un stage de 4 semaines en médiathèque pour vérifier si c'est vers ce milieu qu'elle s'orientera. Ça ressemble un peu à ça quand même hein, quand on voit l'échange qu'on a eu là. Nous étions en tout début d'émission avec Jean qui est médiathécaire sur la médiathèque de Verneuil d'Avre et dit-on. Et nous passons maintenant à Guillaume qui est médiathécaire aussi. On dit médiathécaire, tout le monde, Jean disait bibliothécaire, moi j'ai tendance à dire médiathécaire.
Médiathécaire, oui, ça se dit maintenant.
Ça se dit, ouais. D'accord. Sur Breteuil sur Iton, Guillaume. Au-delà du parcours, comme je disais, on va pas faire les parcours précisément, ça pourrait être un peu fastidieux et pas forcément intéressant. Par contre, je vais me permettre d'aller sur ce que j'ai repéré, c'est dans ces questions de littérature, notamment. Guillaume, toi, tu es un passionné de bande dessinée, plus précisément de comics. Oui. Souvent, la bande dessinée, le comics, le manga même, sont considérés, peuvent être, en tout cas l'étaient, considérés comme des arts mineurs de la littérature. Voilà, on va se le dire entre nous, ce n'est clairement pas le cas. Ce n'est clairement pas un art mineur de la littérature, c'est un genre de littérature. Moi, je voulais voir avec toi, Guillaume, ce lien entre, finalement, comme tout le monde, t'as dû découvrir les livres, on va dire, de la littérature classique, les livres pour enfants, tous ces éléments-là, et à quel moment, finalement, ce goût pour le comics apparaît? À quel moment il y a cette rencontre avec cette culture américaine en plus?
Cette rencontre, je m'en souviens bien, 1999, j'avais vu Blade tard le soir avec ma mère, c'était un film violent, ouais, le film Blade. Et il y avait Spider-Man de Sam Raimi qui était annoncé, et on était au kiosque avec mes parents, j'ai dit à mon père, bon, ça a l'air vachement bien Spider-Man, est-ce que tu peux m'acheter le kiosque? M'a acheté le premier kiosque. Et j'ai commencé à lire par là, donc d'abord ça a été Spider-Man, ensuite je me suis intéressé aux X-Men, quand le film X-Men est sorti, premier film X-Men en 2001. Je me suis intéressé à Daredevil à cause du film tout pourri avec Ben Affleck, les comics étaient mieux. Donc, bonne découverte. Merci Ben Affleck. Ton film est naze, mais les comics sont bons. Et c'est un petit peu parti de là. Et je dois dire qu'encore aujourd'hui, je suis attristé de voir que ce format kiosque a complètement disparu de nos étals et est remplacé par des espèces d'éditions cartonnées collector qui n'ont rien à voir avec ce qui est censé être le format. N'en déplaise à certains.
Alors, tu évoques le magazine, en fait, qui est avec des petits épisodes. C'est le feuilletonnage, en fait, de l'histoire. On retrouve, d'ailleurs, dans les versions éditées, cartonnées, ces découpes, hein, toujours de petites histoires. Ça tient en 10 pages, 15 pages, des fois, même moins, des fois.
26 pages, 28 pages.
26 pages. Et on retrouve son petit épisode de son comics, en fait.
Qu'on doit suivre, normalement, de manière mensuelle.
Voilà, c'est ça, c'est le rendez-vous, c'est un petit peu la série. Mais ça va avec l'air du temps, hein. Tu parles d'une époque où on récupérait un bout d'histoire chaque mois, comme on regardait une série chaque semaine. Aujourd'hui, avec les plateformes, on a des séries par saison complète. Et ben aujourd'hui, on a des comics par album complet.
Oui, sauf que c'est encore plus visible de détecter la qualité médiocre, voire complètement mauvaise de certaines séries lorsqu'on les lit bout à bout. Par contre, quand on les lisait de façon épisodique, eh bien, des fois, il y a certains petits trucs qui passent un peu mieux parce qu'on se rend compte que c'est vraiment fait pour être lu de manière sérialisée et que les défauts de narration, ne sont pas visibles, étant donné qu'on a souvent un trou de 3 à 4 semaines entre chaque épisode.
Alors, on voit bien ce lien du comics avec l'adolescence, c'est là où tu le découvres le comics, et puis on aurait tendance à se dire on les abandonne quand on devient adulte, et toi non, tu ne les as pas abandonnés. Quel est ce lien justement, enfin à quel moment finalement l'adulte que tu es continue d'être nourri par ces histoires qui ont été rencontrés à l'adolescence?
Alors, je les ai quand même abandonnés pour un certain nombre d'années. Hein. Je me suis mis à un moment, grâce à un prof de français d'histoire géo au lycée, à la littérature policière, il m'a fait découvrir Robert Van Gulik et Les Affaires du Justi. Si vous ne connaissez pas, c'est édité chez 10-18. Très bonne série policière et historique qui se déroule en Chine. Je me suis mis à ça. L'été suivant, il y avait le James Bond Casino Royale qui était sorti l'année précédente et Bragelon avait commencé à les rééditer. Mes parents m'ont acheté Casino Royale. J'ai lu ça en une après-midi. Je me rappelle, c'était un été en juillet, je crois. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Ian Fleming, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui savait quand même écrire et vous engager dans une histoire. Après, je suis parti sur tout ce qui était littérature pulp, donc Conan, Lovecraft, ces auteurs-là. Et on était donc à la fin des années 2000 et au début des années 2010, pour une raison dont je ne me souviens pas du tout. Non, j'ai vraiment oublié. J'ai commencé à relire des comics, mais je lisais ça en format dématérialisé. Enfin, je lisais des copies pirates sur Internet en VO, parce que ça me gonflait d'attendre les sorties en VF. Alors, j'ai déjà acheté chez Album Comics à Paris, si vous connaissez. Mes petits formats floppy en VO. Je m'y suis remis pendant 2-3 ans, j'ai arrêté de nouveau et j'ai repris en 2022 quand j'ai découvert Spider-Man Life Story à la médiathèque de Lisieux, écrit par Chip Zdarsky et Mark Bagley. Je me suis dit, oh, c'est vrai que quand même, il y a des trucs pas mal là-dedans. Je me suis dit, bon, essayons de se remettre à jour. Bon, ce que j'ai toujours pas fait parce que quand même la qualité a bien dégringolé. C'est moins intéressant, je trouve, qu'avant parce que c'est beaucoup plus formaté à cause de tous les problèmes éditoriaux qu'on connaît actuellement. Je vous renvoie à l'émission Radio Superpouvoir pour en savoir plus. Mais c'est périodique, voilà. Je m'y remets par période.
Mais alors, pour aller au bout de ma question, qu'est-ce qui fait qu'un adulte qui a une culture littéraire large, en fait, hein, qui est lecteur, qui est médiathécaire, comment, de quoi se nourrit cet adulte dans les comics qui sont quand même hyper codifiés?
Ce qui m'intéresse, en fait, dans les comics aujourd'hui, je m'en rends compte, déjà, c'est les histoires plus adultes et c'est ce qui tourne autour du polar. Et ce qui m'a toujours intéressé dans le roman noir, dans le policier, c'est comment ce genre-là arrive à traiter, en sous-texte, des problèmes de société, de la société française, de la société américaine, comment ces problèmes-là sont remis en avant par des moyens détournés sous couvert d'une littérature de genre.
Alors, on aura choisi cet angle-là. Oui, Jean, bien entendu.
Oui, non, mais je voulais juste rebondir sur cette dernière question. Moi, mon premier comics, je l'ai eu, j'avais même pas 5 ans entre les mains. Et c'était un Strange. Et dans ce Strange, il y avait Captain Marvel qui se faisait massacrer par Drax, le destructeur, et Iron Man, pareil, qui se faisait massacrer par un super méchant. Enfin, et dans les deux histoires, en fait, Iron Man et Captain Marvel, les deux sont pris dans un conflit intérieur. Ils veulent pas faire trop de mal aux personnes qui sont en face d'eux parce que il y a différentes raisons. Iron Man, c'est son ancien ami. Captain Marvel, il a de l'empathie pour Drax, le destructeur. Et en fait, c'est pour ça qu'ils se font massacrer, parce qu'ils retiennent leur coup. Et comme moi, j'étais petit, j'avais 5 ans, les deux histoires se terminent à un moment où on peut clairement imaginer que bon, bah, ils sont morts, quoi. Et en fait, moi, ça m'a été ma première rencontre avec les comics. Ça a été la mort de deux héros que j'adorais. Et quand j'ai vu qu'ils existaient dans d'autres histoires longtemps après, je me suis dit, ah mince, ils sont encore vivants. Mais voilà, pour moi, c'est la figure du tragique, en fait. Puis ça m'a construit un peu, parce que moi aussi, je me suis dit, bah mince, retiens tes coups. Enfin voilà, quoi. Bon.
C'est exactement ce que nous disait Guillaume, effectivement, de finalement ce parallèle et ce sous-texte qu'on peut retrouver dans les comics. On passe au coup de cœur, Guillaume, si tu le veux bien, parce que t'es venu également avec un coup de cœur.
Oui, je le veux bien, t'as de la chance que je dise pas non.
Bon, on aurait fait autre chose, hein, qu'est-ce que tu veux.
Si vous vous rappelez bien, dans la dernière émission, on avait parlé de fantasy, et j'avais fait une grosse bourde parce que je vous avais parlé d'un livre d'un auteur russe, Kirill Eskov, Le dernier porteur de l'anneau. Bah, en réalité, il est sorti en français. Il a été édité par un tout petit éditeur qui s'appelle 50 nuances de geek. C'est sorti en toute fin d'année dernière et ça a été donc traduit et édité en numérique et en format papier. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, le pitch, c'est quoi? On se situe, il essaye de continuer à la fin du Seigneur des Anneaux. Donc, le Mordor a été vaincu. Et on va découvrir les conséquences. Qu'est-ce qui arrive donc à toute cette population d'orques dont la terre natale a été détruite et qui ont été chassés de leur territoire? Et on va se rendre compte que les humains vont se mettre à les exterminer au fur et à mesure, et ils vont tenter de survivre par tous les moyens possibles. Et ça va être une lutte très très difficile, je vous en dévoile pas plus. Ça prend un contre-pied vraiment à la morale qu'on peut trouver chez Tolkien, étant donné que là, on est dans des nuances de gris. Personne n'est fondamentalement mauvais, personne n'est fondamentalement bon. C'est-à-dire que les orques, eh bien, on se rend compte qu'ils sont pas dans cette situation, on va dire, nécessairement par choix, qu'ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent, que les humains essayent de justifier par une rhétorique des plus douteuses l'extermination bête et systématique des orques. Ça devrait logiquement vous rappeler des choses. Je rappelle que Kirill Leskov est né dans les années 40, à la fin des années 40. C'est un auteur soviétique, à la base, il est biologiste. Comme il le dit dans l'intro, il écrit à la base pour lui et ses amis, pour s'amuser. Sauf que ça a rencontré tellement de succès qu'il a fini par être édité. Donc, attention d'un certain côté, le texte, c'est très russe. Si vous n'avez pas l'habitude de ce type de littérature, ça va sans doute vous déconcerter dans un premier temps. Pourtant, c'est très bien écrit, attention. Mais on n'est pas du tout dans un style, on va dire, cynique à l'occidental, façon George R. R. Martin qui a écrit Game of Thrones. Vous ne s'attendez pas du tout à ça, ça n'a rien à voir.
Le dernier anneau par
Kirill Leskov.
Très bien. Eh bien, merci Guillaume. Tu n'es pas venu non plus tout seul. Alors c'était assez simple parce qu'on fait cette émission dans les studios qui sont collés à la médiathèque, mais tu n'es pas venu tout seul, Guillaume.
Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est glissé dans le studio radio. Je ne connais pas cette personne. Qui êtes-vous, madame ?
Bonjour, je suis Christelle et je travaille avec toi, Guillaume, depuis un petit moment déjà.
C'est vrai ça ?
Oui.
Alors dans les parcours et dans les échanges, c'est pas comme ça que je comptais l'aborder, mais tu as réagi quand même vivement pendant la pause musicale en disant moi si tu me demandes pour le premier bouquin je sais direct. C'était pas comme ça que je comptais l'aborder, mais comme tu sais direct, Christelle, nous allons passer par cette étape. Toi la rencontre avec un livre, toi la rencontre avec avec la littérature, à quel moment se passe-t-elle et avec quelle œuvre?
Alors moi, les premiers moments de livres que je me souviens, ce sont en fait, c'est le livre avec lequel j'ai appris à lire, donc je pense que ça devait être le CP certainement, qui s'appelait Valérie et Daniel. Donc j'ai bien le souvenir de ce livre-là avec lequel j'ai appris à lire, mais il y a vraiment un livre, un petit album qui m'a marqué et que j'ai toujours d'ailleurs et qui s'appelle Porculus. Je pourrais pas vous dire l'auteur parce que c'est pas quelque chose qui m'importait à ce moment-là, mais cette histoire-là, c'était l'histoire d'un petit cochon qui se fait prendre au début, bien sûr, un cochon aime bien aller dans la boue s'amuser. Et là, malheureusement, il allait se faire prendre plutôt par du ciment. Et on a vraiment la vision de la première couverture avec ce petit cochon tout jaune qui est coincé dans cette boue, mais qui n'est pas de la boue. Et voilà, ce souvenir, c'est vraiment ce souvenir-là marquant du premier livre, en fait.
On est quoi sur le CPCE1, 6-7 ans, c'est ça?
C'est oui. Ça, 6 ans environ.
On est à ce moment-là dans la rencontre avec le livre. Tu grandis, j'imagine que t'es passé à autre chose que le petit cochon pris dans le béton.
C'est ça. J'ai eu beaucoup l'adolescence, on va dire, qui passait de 12 ans jusqu'à environ 16 ans, où là, le livre, pour moi, n'a pas été du tout présent, en fait. De temps en temps, en vacances, des petits magazines, comme parlait Guillaume tout à l'heure, des petits magazines en noir et blanc, plutôt du style Nous Deux, qui racontaient des histoires d'amour, où tout allait pas bien, mais très bien à la fin, en fait. Ça me plaisait, ça me faisait rêver, en fait. J'attendais mon prince charmant, peut-être. Et puis, je suis devenue maman et j'ai commencé à relire pour plutôt ma fille, en fait. Donc, j'achetais des livres, pas forcément qu'on pourrait trouver là, aujourd'hui, dans la médiathèque. Mais voilà, je me faisais plaisir à lui raconter des histoires. Et puis, je l'ai un peu abandonné quand elle a grandi aussi. Mon métier n'était pas du tout bibliothécaire au départ, en fait. J'étais plutôt secrétaire en mairie également. Donc, je côtoyais beaucoup de monde et j'ai eu l'opportunité de travailler pour un remplacement dans une bibliothèque. Et on m'a proposé un poste en bibliothécaire en service jeunesse.
Et alors, justement, comment on aborde un secteur jeunesse où la littérature jeunesse a énormément évolué? Enfin, elle évolue d'ailleurs très très vite. Je crois que c'est un des secteurs de la littérature qui est en pleine expansion. Quand on voit les albums, les romans, les auteurs qui sont des auteurs de premier rang maintenant, hein, ce qui n'a pas toujours été le cas, honnêtement. Quand on voit les bibliothèques roses et les bibliothèques vertes, on ne peut
alors,
pas dire
non,
qu'on
non,
était
non,
sur la grande littérature. Hein, mais ça a beaucoup évolué, en fait, ce milieu. Alors du coup, comment on l'appréhende, ce milieu?
Je vais rebondir parce que la bibliothèque rose, pour moi, c'est mon enfance.
Eh bien, mais celle de bah, non, on va pas donner les âges, c'est pas très
non,
correct
voilà.
Autour de la table, mais pour beaucoup d'entre nous, la bibliothèque rose et la bibliothèque verte, c'est notre accès
voilà.
Au roman, hein, très clairement.
Moi,
hein. Mais on a fait pas ton plus jeune, Guillaume. Hein. Mais effectivement, à une époque, c'était les best-sellers, quoi. C'était vraiment
voilà.
Ce qu'on retrouvait partout.
Bon, après, il y avait la Comtesse de Ségur, enfin, des choses classiques, malgré
ultra
tout.
Ultra classiques, quand même. Hein. Ouais, Guillaume.
Ouais, j'aimerais rebondir sur quelque chose qu'a dit Christelle et je pense qu'il faut qu'on l'évoque quand même. Avec vous, chers auditeurs, posez-vous cette question et j'aimerais poser la question à tout le monde autour de la table, étant donné que Christelle a parlé de lecture plaisir. Alors, est-ce que pour vous, la lecture, c'est une corvée infâme, souvenez-vous des lectures de collège par exemple, ou est-ce un plaisir? Pourquoi vous lisez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous y prenez du plaisir? Vous le faites par obligation sociale pour lire le dernier bidule d'un piscopi qui a écrit son roman? Parce qu'il faut le lire, il faut en parler au dîner mondain. Pourquoi vous lisez?
T'en fais pas les dîners mondains, nous, quand même, hein, Guillaume? Il y a que toi qui les fais, les dîners mondains. Hein.
Moi non plus, je fais semblant.
Je sais pas, si vous voulez faire un tour de table sur la question de Guillaume.
Ouais, moi je pense que c'est vraiment pour porter une voix à l'intérieur. Là, je me remets à écouter des livres audio. J'ai écouté Les Contes cruels de Maupassant. J'ai écouté La Dame de Pique de Pushkin. Et les voix... Elles sont en moi, elles vibrent en moi et ça donne un petit supplément d'âme en fait. Maupassant, c'est un observateur des caractères extraordinaires. C'est quelqu'un qui écrit des nouvelles mais poignantes, les contes cruels vraiment. Vous avez le cœur qui se serre quand vous les entendez, quand vous les lisez. Et voilà, ça témoigne du fait qu'on est vivant tout simplement.
Ah, tu me regardes Guillaume, c'est ça?
Oui, je te regarde ici.
Eh ben, j'ai envie de te dire, moi, ça dépend quelle lecture. En fait, il y a des lectures d'obligation. Je pense aux essais. Je pense à des lectures qui vont m'apporter un bagage, soit professionnel, soit personnel. Il y a certaines lectures difficiles, celles qui vont amener à l'apprentissage quasiment. Voilà, en tête, là, j'ai des essais autour des systèmes de démocratie, des systèmes politiques, des choses comme ça que j'ai lues, des bouquins autour de l'économie pour comprendre des choses qui sont assez fastidieuses. Hélas, il y a vraiment une obligation, enfin comme une obligation de comprendre, donc une obligation d'effort pour comprendre. Puis il y a la lecture purement plaisir, celle de l'évasion, celle de j'attends le moment où je vais retrouver mes compagnons d'aventure, parce qu'en fait je suis dans l'aventure. Je me souviens d'un livre qui m'a porté assez longtemps, moi, qui était La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Ça m'a assez porté. C'est une lecture assez difficile quand même, elle est pas hyper simple comme lecture.
Ah, Damasio, c'est pas si simple que
non,
ça,
c'est pas si simple, et en même temps j'étais un des personnages de la Horde. J'attendais mon tour, parce qu'en fait dans l'histoire, en fait, chaque personnage, on a le point de vue de plusieurs personnages en fait dans la narration, et j'attendais mon tour de donner mon point de vue de l'histoire, quoi. Enfin, il y avait vraiment, je retrouvais la Horde, en fait, ma Horde, je la retrouvais, et ça c'était un vrai plaisir de se dire tiens ce soir là j'ai 2 heures devant moi, je vais retrouver ma Horde. Enfin, il y avait un côté comme ça, on va faire notre trace. Alors pour ceux qui ont lu le contrevent, ils voient, moi aussi je vais faire ma trace dans l'aventure. Voilà, il y a des lectures comme ça qui emmènent et où je fais partie de l'aventure. Voilà. Donc il y a les deux, en fait. Il y a autant l'effort, autant l'obligation parfois. Autant, moi, il y a des livres que j'ai lus en me disant non, là, faut vraiment que j'avance là. Allez, je fais au moins 3 chapitres, hein, pour histoire de dire faut que je m'en débarrasse. Mais je m'en débarrasse dans le sens où j'en aurais absorbé le contenu, quoi, à la fin. Mais avec une espèce d'obligation. Je pense à des trucs professionnels, en fait, hein, des essais ou des bouquins comme ça. Mais il y a tout autant de plaisir à la fin quand on a compris quelque chose, un concept, une idée. Enfin, on a eu la sensation d'avoir progressé dans sa compréhension du monde à la fin de la lecture, et ça, c'est cool, quoi. Et en même temps, il y en a d'autres. J'ai juste vécu une aventure avec des personnages. Et puis, comme on l'évoquait, Damasio, il s'est passé deux choses en même temps. J'ai vécu une aventure, mais en fait, il m'a fait en plus réfléchir à d'autres trucs. Mais bon, ça, c'est encore autre chose.
Audrey.
Alors moi, j'ai une approche assez étrange avec les livres, puisque quand je ne lis pas ou quand ça fait un petit moment que je n'ai pas lu, j'ai beaucoup de mal à reprendre en main un livre et je me force un petit peu à reprendre un livre, en fait, tout simplement. Et donc, dans un premier temps, ça peut être un petit peu... je vais pas le prendre comme du plaisir, mais... dès que je suis vraiment dans l'histoire, là le plaisir revient. Dès qu'il y a un petit rebondissement, j'adore tout simplement, et j'ai qu'une envie quand je referme le livre, c'est de l'ouvrir et de continuer à lire. Donc c'est assez étrange, puisque dans un premier temps, voilà, mon premier but, c'est juste de lire, en fait, tout simplement, de lire, de poser mon téléphone un petit peu, d'ouvrir un livre, de me poser. Et le plaisir vient après, et après ce plaisir prend le pas sur le reste, et j'arrive à lire, et si je peux, c'est encore mieux, d'enchaîner les livres, comme ça ce plaisir il ne s'arrête jamais, et j'ai plus le petit moment à me dire faut que je lise là, je suis trop sur mon téléphone, ou j'ai rien à faire, qu'est-ce que je peux faire, mais j'ai pas envie de lire. Non, j'essaie d'enchaîner le plus possible les livres, comme ça ce moment d'obligation, en fait, il disparaît et je prends juste du plaisir.
On revient à Christelle.
Alors, donc, mon parcours, je disais que j'étais pas du tout bibliothécaire. Donc, j'ai eu des formations au niveau de la littérature jeunesse. Je lisais à ma fille, mais pas forcément, justement, les auteurs qu'on m'a fait connaître, tels que Anthony Brown, Ungerer, enfin, des auteurs vraiment classiques, qui sont vraiment des auteurs formidables pour les enfants. Qu'on trouve chez soi, si on a peut-être des parents, ou je sais pas, des parents qui ont été un peu plus curieux que moi, étant maman au départ. Et j'ai donc appris à aimer ces auteurs-là. Et ce que j'aime maintenant, c'est vraiment donner l'envie aux enfants, vu que je suis en bibliothèque en jeunesse, donner l'envie aux enfants de découvrir ces auteurs, et surtout la chute de ces albums, en fait, quand je les lis, en fait, parce que dans un album, il y a ces illustrations qui sont vraiment superbes, mais aussi souvent une chute qui nous surprend souvent, et les enfants sont également surpris, et ils ont des petites étoiles dans les yeux, et ils ont qu'une envie, c'est emprunter surtout le livre qu'on a lu en bibliothèque, et ils le veulent tous, et là c'est gagné, c'est le succès, et je me dis que voilà, ce métier là il est vraiment chouette, rien que pour donner l'envie aux enfants de revenir nous voir, et surtout d'emprunter le livre qu'on aurait lu à une animation, et ce livre là il aurait peut-être pas découvert dans les magasins.
Venez emprunter Poisson Fesse, notre dernier grand succès dans le genre.
Il adore Guillaume.
Oui, non, c'est complètement faux.
C'est aussi tout l'intérêt, on l'abordait depuis tout à l'heure, cette notion de médiation. On a présenté un livre, on l'a lu, et ça donne envie aux enfants de l'emprunter. Bah, c'est réussi, en fait, c'est ça, une médiation réussie, c'est quand elle débouche sur la suite. Le temps avance, et plus que rapidement, j'en suis le premier désolé, mais faut qu'on passe à la suite.
J'ai les yeux dans un bouquin. Légalisé, légalisé, légalisé.
Voilà, lisez, c'est ça qu'on dit. On arrive aux événements sur notre dernière ligne droite, qu'on n'a pas timée, mais j'espère qu'elle ne débordera pas trop.
Normalement.
Où en sommes-nous au niveau des événements, messieurs ?
Monsieur Jean.
Je dis messieurs, parce que c'est plutôt Jean et Guillaume qui sont sur le coup en général, mais Audrey et Christelle, bien entendu, peuvent interagir.
Alors, cette semaine, nous avons ce qu'on appelle la semaine des gamers à la médiathèque. Donc, tous les après-midi, de mardi au samedi, on met à disposition des consoles Switch pour du jeu vidéo. C'est aussi ça, les médiathèques aujourd'hui. Et nous
avons invité Yann Wax. Non, t'as pas suivi, c'est pas grave.
C'est pas grave. Et puis, donc demain, Lire et faire lire nous fera une lecture à 11h. Et il y a l'atelier d'écriture, écrire un plaisir à la portée de tous, le samedi 22 à 10h du matin. Et puis, le mois prochain, on parlera, ce sera le printemps des poètes et on aura en concert la chanteuse Livan le vendredi 14 mars à 19h. Ce sera bien. Et le concert s'appelle Piaf, Fréhel, Damia et moi. Voilà.
Que des grands noms de la chanson.
Exactement, ouais, ouais. Et Guillaume lève le pouce, ça doit vouloir dire quelque chose.
Ouais, oui, parce que quand il lève le pouce, c'est qu'il est content. Quand il lève l'index, c'est qu'il veut parler.
Voilà, c'est ça. Bien joué pour le concert. Parce que n'oubliez pas, malheureusement, les Normandie Beeb Live sont annulés dans le département. Alors, nous sommes on est carrément déçus à Breteuil de ne pas avoir le concert.
D'autres événements en vue à Breteuil, à Verneuil, à Breteuil.
À Breteuil, demain. Donc demain, nous serons le 19 février. Une petite animation ciné, album animé, court-métrage, donc avec Christelle pour les 3-6 ans. C'est demain matin à 10h30. Notez bien le rendez-vous, demain matin à 10h30.
Et c'est un petit coup de cœur. C'est un petit coup de cœur que j'ai par rapport au petit court-métrage que je passerai. Donc, venez nombreux, c'est juste trop mignon.
Oui, on a visionné les films ensemble. En plus, ils sont vraiment très, très bien. Samedi, 22 février, fermeture exceptionnelle de la médiathèque. Et oui, malheureusement, vous n'êtes pas présents les samedis de vacances scolaires. Donc, nous fermons exceptionnellement. Donc, ne vous présentez pas, la grille sera fermée. Le 8 mars, on enchaîne déjà sur le mois de mars. L'après-midi, jeu avec la Ludoditon, comme d'habitude à 14h. Et le 15 mars, diffusion à 13h45, donc samedi, du Chapeauté 2. Si vous n'avez pas vu le premier, il est disponible à la médiathèque pour l'emprunter. Et la semaine prochaine, mardi, même heure, Radio Super Pouvoir, où mes collègues vont vous ennuyer avec Captain America et moi je vous parlerai d'autre chose.
Jean.
Oui, la Ludoditon qui sera aussi présente à la médiathèque de Verneuil le 1er mars après-midi.
On a fait le tour des événements ?
On a fait le tour, donc prochain rendez-vous de Bibliopotine le 18 mars.
C'est exactement ça, c'est ce qu'on a écrit.
Ouais, je ne sais pas sur quel sujet par contre.
Bah, les auditeurs le découvriront.
Exactement. Oui.
Surprise.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.